Chapitre 7. La chambre propre et spacieuse à laquelle le domestique conduisit Nejdanov donnait sur le jardin. Les fenêtres étaient grandes ouvertes et un vent léger soulevait doucement les stores blancs qui se gonflaient comme des voiles, s'avançaient, montaient et retombaient. Des reflets dorés glissaient lentement sur le plafond. La chambre était pleine d'une odeur de printemps, fraîche et un peu humide. Nejdanov commença par renvoyer le domestique, tira ses effets de sa valise et fit sa toilette. Le voyage l'avait absolument éreinté. La présence constante pendant 2 jours d'un inconnu avec lequel il avait parlé de tout et de rien, cette conversation décousue et inutile avait fatigué ses nerfs. Un sentiment amer, ennui ou colère, s'agitait sourdement au plus profond de son être. Il s'indignait de son peu de courage, de sa mollesse, et l'amertume persistait. Il s'approcha de la fenêtre et se mit à regarder dans le jardin. C'était un vieux jardin planté depuis un siècle au moins, en pleine terre noire. Un jardin dont on n'aurait pas trouvé le pareil dans toute la région en deçà de Moscou. Tracé sur la pente d'une longue colline, il se composait de 4 parties nettement distinctes. En face de la maison, jusqu'à une distance d'environ 200 pas, s'étendait le parterre, avec ses allées sablées en ligne droite, ses corbeilles rondes, ses massifs d'acacias et de lilas. À gauche, longeant l'écurie jusqu'à la grange, se voyait le jardin fruitier aux rangs serrés de pommiers, de poiriers, de pruniers, de groseilliers et de framboisiers. Plus loin, en face de la maison, se croisaient des allées de hauts tilleuls dont l'ensemble formait un rectangle vaste et régulier. À droite, la vue était bornée par un double rang de peupliers blancs qui ombrageaient la route. Le toit aigu de l'orangerie se dressait derrière un bouquet de bouleaux pleureurs. Tout le jardin avait revêtu le vert tendre du premier épanouissement printanier. On n'entendait pas encore le grand et vigoureux bourdonnement d'insectes qui remplit l'air pendant les chaleurs de l'été. Quelques pinsons chantaient çà et là, 2 tourterelles roucoulaient sur les branches d'un même arbre. Un coucou isolé faisait entendre son appel en changeant à chaque fois de place. Et de là-bas, de bien loin, de derrière l'étang du moulin, venait un croissement de corbeaux, immense et continu, semblable au grincement d'une foule de roues aux essieux de bois. Et par-dessus toute cette vie jeune, retirée et solitaire, de grands nuages clairs passaient en arrondissant leur poitrine comme de grands oiseaux paresseux. Nejdanov regardait, écoutait, aspirait l'air qui rafraîchissait ses lèvres entr'ouvertes. Il se sentait plus à l'aise. Ce calme qui l'entourait pénétrait aussi en lui. Pendant ce temps, on parlait de lui dans la chambre au-dessous. Sipiagin racontait à sa femme comment il avait fait sa connaissance et ce que lui avait confié le prince G et quel discours ils avaient tenu pendant le voyage. « Un garçon intelligent, répétait-il, et instruit. Il est un peu rouge d'opinion, c'est vrai. Mais tu sais que pour moi cela n'a aucune importance. Ces gens-là ont au moins une chose pour eux. Ils ont de l'amour-propre. Et puis Kolia est trop jeune. Ses folies ne mordront pas sur lui. » Madame Sipiagin écoutait son mari avec un sourire caressant à la fois et moqueur, comme s'il eût confessé quelque escapade un peu étrange, mais amusante. Elle éprouvait même une sorte de plaisir à voir que son seigneur et maître, un homme si posé, si grave, était encore capable de faire un coup de tête comme à 20 ans. Debout devant un miroir et orné d'une paire de bretelles en soie bleue sur une chemise blanche comme la neige, Sipiagin était en train de se coiffer à l'anglaise, avec 2 brosses, et Valentine Mikhailovna, qui s'était couchée à demi, avec ses bottines, sur un petit divan turc, lui donnait divers renseignements sur l'exploitation du domaine, sur la fabrique de papier qui, hélas, n'allait pas comme il aurait fallu, sur le cuisinier qu'il faudrait remplacer, sur l'église dont le plâtre était tombé, sur Marianne, sur Kalomeitsev. Une franche confiance, une amitié sincère existait entre les 2 époux. Ils vivaient réellement en amour et concorde, selon la vieille formule. Et lorsque Sipiagin, ayant terminé sa toilette, demanda à Valentine, en vrai chevalier, sa menotte à baiser, lorsque sa femme lui tendit les 2 mains et le regarda avec une orgueilleuse tendresse les baiser tour à tour, le sentiment qu'exprimaient les visages des 2 époux était un sentiment honnête et bon. Bien qu'il brillât chez elle dans des yeux dignes de Raphaël et chez lui dans de simples lucarnes de fonctionnaires. À 5 heures précises, Nejdanov descendit pour le dîner, qui était annoncé non par le son d'une cloche, mais par les beuglements prolongés d'un gong chinois. Toute la société était réunie dans la salle à manger. Sipiagin souhaita de nouveau, et du haut de sa cravate, la bienvenue à Nejdanov, et lui assigna une place à table entre Kolia et Anne Zakharovna. Anne Zakharovna était une vieille fille, sœur du défunt Sipiagin père. Elle exhalait une odeur de camphre comme un vêtement resté longtemps dans un coffre. Avec cela, l'air morne et inquiet. Elle remplissait dans la maison le rôle de menin ou de gouverneur de Kolia. Quand on plaça Nejdanov entre elle et son élève, son visage ridé exprima le mécontentement. Kolia regardait du coin de l'œil son nouveau voisin. L'intelligent petit garçon devina bientôt que son professeur était embarrassé. En effet, Nejdanov ne levait pas les yeux et ne mangeait presque pas. Kolia n'en éprouva aucun déplaisir. Il avait toujours eu peur que son professeur ne fût un monsieur sévère et irascible. Valentine aussi regardait Nejdanov. Il a bien la tournure d'un étudiant, pensait-elle, et il n'a pas l'usage du monde. Mais il a l'air intéressant, et ses cheveux ont une couleur originale, comme ceux de cet apôtre que les anciens maîtres italiens peignaient toujours roux, et il a les mains propres. Tous les convives, d'ailleurs, regardaient Nejdanov, mais ils le ménageaient, ils le laissaient tranquille, pour commencer. Et lui, qui sentait fort bien tout cela, il en était en même temps satisfait et irrité, sans trop savoir pourquoi. C'était Kalomeitsev et Sipiagin qui alimentaient la conversation. Ils parlaient du Zemstvo, du gouverneur, du péage des routes, des billets de rachat, de leurs amis communs à Pétersbourg et à Moscou, du lycée Katkov qui venait de s'ouvrir, de la difficulté d'avoir des travailleurs, des amendes, des dégâts causés par les bestiaux, de Bismarck, de la guerre de 1866 et de Napoléon III, que Kalomeitsev qualifiait de gaillard. Le jeune gentilhomme de la chambre professait les opinions les plus rétrogrades. Il en arriva même à répéter, sous forme de plaisanterie, il est vrai, le toast qu'un de ses amis avait porté à un banquet intime. « Je bois aux deux seuls principes que je reconnaisse, » s'était écrié ce propriétaire échauffé par les libations, « au Knut et au Röderer. » Madame Sipiagin fronça les sourcils et fit observer que cette citation était de très mauvais goût. Sipiagin, lui, énonçait des idées très libérales. Il réfutait Kalomeitsev avec une politesse quelque peu nonchalante, non sans un brin de persiflage. « Vos frayeurs au sujet de l'émancipation, mon cher Siméon Petrovitch, lui dit-il entre autres choses, me rappellent un rapport que l'excellent et très respectable Tveritinov présenta en haut lieu en 1860 et qu'il lisait dans les salons de Pétersbourg. La plus belle phrase de ce rapport était celle où il disait que les paysans émancipés ne manqueraient pas de se répandre, une torche à la main, sur toute la face de la patrie. Il fallait voir notre brave Tveritinov gonfler ses petites joues, écarquiller ses petits yeux et s'écrier en ouvrant sa bouche enfantine « La torche, la torche, une torche à la main !» Eh bien, l'émancipation s'est accomplie. Où sont les paysans avec leurs torches ? Tveritinov, répliqua Kalomeitsev d'une voix sombre, se trompait sur un seul point. Ce ne sont pas les paysans, ce sont d'autres qui porteront des torches. En ce moment, Nejdanov, qui jusque-là n'avait pas regardé une seule fois Marianne, placée pourtant du même côté de la table que lui, échangea un regard avec elle. Et il sentit immédiatement que tous deux, cette jeune fille morose et lui, avaient les mêmes convictions et tendaient vers le même but. Elle ne l'avait nullement frappé lorsque Sipiagin la lui avait présentée. Pourquoi donc était-ce justement avec elle qu'il échangeait un regard? En même temps, une inquiétude vint le prendre. N'était-ce pas une chose honteuse, ignominieuse même, que d'être là, d'entendre de pareils discours et de ne pas protester, donnant ainsi par son silence le droit de croire qu'il partageait ses opinions? Ses yeux rencontrèrent de nouveau ceux de Marianne, et il crut y lire une réponse à sa question. « Attends, le moment n'est pas venu. Ce n'est pas la peine, plus tard, il sera toujours temps. » Il lui fut agréable de penser qu'elle le comprenait, puis il recommença à suivre la conversation. Madame Sipiagin avait remplacé son mari, elle le dépassait presque en liberté d'opinion, en radicalisme. Elle ne comprenait pas, non, elle ne comprenait positivement pas comment un homme jeune et instruit pouvait s'en tenir à une routine aussi démodée. « Du reste, ajoutait-elle, je suis persuadée que vous dites cela tout bonnement pour le plaisir de taquiner. » « Quant à vous, Alexis Dmitritch, dit-elle avec un aimable sourire à Nejdanov, qui s'étonna de voir qu'elle savait ses prénoms, « je sais que vous ne partagez pas les inquiétudes de M. Kalomeitsev. Mon mari m'a fait part de vos conversations avec lui pendant le voyage. » Nejdanov rougit, s'inclina sur son assiette et balbutia quelques paroles confuses. Non par timidité, mais parce qu'il n'était pas habitué à causer avec d'aussi brillants personnages. Madame Sipiagine continuait à lui sourire pendant que son mari approuvait d'un signe de tête protecteur. Kalomeitsev, sans se presser, insinua son monocle rond dans son arcade sourcilière et se mit à examiner cet étudiant qui se permettait de ne pas partager ses inquiétudes. Mais ce n'était pas cela qui pouvait intimider Nejdanov. Au contraire, le jeune homme releva immédiatement la tête et soutint le regard du superbe bureaucrate. Et la même impression soudaine qu'il lui avait fait deviner en Marianne une amie, lui montra en Kalomeitsev un ennemi. Kalomeitsev, lui aussi, eut la même impression. Il laissa tomber son monocle, se détourna, chercha une plaisanterie, et ne trouva rien. Seule Anne Zakharovna, qui avait pour lui une vénération secrète, prit intérieurement son parti, et devint plus furieuse que jamais contre l'autre malencontreux qui la séparait de Kolia. La fin du dîner arriva bientôt. On passa sur la terrasse pour prendre le café. Sipiagine et Kalomeitsev allumèrent un cigare. Sipiagine offrit à Nejdanov un régalia authentique, mais le jeune homme refusa. « Ah oui, s'écria Sipiagine, j'oubliais, vous ne fumez que vos cigarettes. »«
C'est un goût assez curieux, » murmura Kalomeitsev entre ses dents.
L'étudiant faillit éclater. Il avait envie de répondre « Je connais très bien la différence entre un régalia et une cigarette, mais je ne veux rien devoir à personne. » Pourtant, il se contint, non sans inscrire au débit de son ennemi cette nouvelle impertinence. « Marianne, dit tout à coup à haute voix Madame Sipiagine, ne fais pas de cérémonie avec monsieur. Va, fume ton paquitos. D'autant plus, ajouta-t-elle en se tournant vers Nejdanov, d'autant plus que dans votre société, m'a-t-on dit, toutes les demoiselles fument, n'est-ce pas ?» « C'est vrai, madame, » répondit sèchement Nejdanov. C'était la première fois qu'il adressait la parole à madame Sipiagine. La soirée était magnifique. Kolia et Anne Zakharovna s'en allèrent dans le jardin. Le reste de la société passa encore une heure environ sur la terrasse à respirer l'air pur. La conversation était assez animée. Kalomeitsev faisait une charge à fond sur la littérature. Sipiagine, toujours libérale, défendait l'indépendance des lettres, démontrant leur utilité, citait même Chateaubriand, à qui l'empereur Alexandre Pavlovitch avait conféré l'ordre de Saint-André, premier apôtre. Nejdanov ne se mêlait pas à cette discussion. Madame Sipiagine le regardait, et l'expression de son visage semblait dire qu'elle approuvait cette réserve discrète, non sans en être un peu surprise. À l'heure du thé, tout le monde revint au salon. « Cher monsieur Nejdanov, dit Sipiagine, nous avons ici une mauvaise habitude le soir, c'est de jouer aux cartes, et qui plus est, un jeu défendu. La Stukolka, figurez-vous. Je ne vous invite pas, mais du reste, mademoiselle Marianne aura la bonté de nous faire entendre un peu de piano. Vous aimez la musique, j'en suis sûr, n'est-ce pas ? Et sans attendre de réponse, il prit en main un jeu de cartes. Marianne se mit au piano et joua, ni bien ni mal, quelques romances sans paroles de Mendelssohn. « Charmant, charmant, quel toucher !» s'écria Kalomeitsev comme un énergumène de l'autre bout du salon. En réalité, il avait poussé cette exclamation par pure politesse. Quant à Nejdanov, malgré la certitude exprimée par Sipiagine, il n'avait pas la moindre passion pour la musique. En attendant, Sipiagine, sa femme, Kalomeitsev et Anne Zakharovna s'étaient mises à jouer. Kolia vint dire bonsoir, et, ayant reçu la bénédiction de ses parents, ainsi qu'un grand verre de lait en guise de thé, il alla se coucher. Pendant qu'il s'éloignait, son père lui cria qu'il commencerait ses leçons le lendemain avec M. Nejdanov. Quelque temps après, s'apercevant que Nejdanov restait là, désœuvré au milieu du salon, et feuilletait par contenance un album photographique, il lui dit de ne pas se gêner et d'aller se reposer chez lui, d'autant plus qu'il devait être fatigué du voyage. D'ailleurs, la devise de sa maison était « Liberté ».
Nejdanov profita de la permission, prit congé de tout le monde et sortit. Sur le seuil de la porte, il se croisa avec Marianne, qu'il regarda en face. Non seulement elle ne lui souriait pas, mais encore elle fronçait légèrement les sourcils. Et pourtant il sentit de nouveau qu'elle serait pour lui un ami, un camarade. Il trouva sa chambre tout imprégnée d'une fraîcheur parfumée. Les fenêtres étaient restées ouvertes tout le jour. Dans le jardin, juste en face de ses fenêtres, un rossignol jetait des sons courts et vibrants. Et dans le ciel nocturne, au-dessus des cimes arrondies des tilleuls, s'étalait une lueur trouble, rougeâtre et chaude. La lune allait se lever. Nejdanov alluma une bougie. Des papillons gris aux ailes cotonneuses vinrent aussitôt en foule du jardin sombre, en tournoyant et se heurtant, et le vent qui les poussait faisait vaciller la flamme bleue et jaune de la bougie. « Quelle chose étrange !» pensait Nejdanov, qui était déjà dans son lit. Les maîtres, les gens, tout le monde ici a l'air d'être bon, libéral, humain même. Et pourtant je me sens tout déconfit. Un chambellan, un gentilhomme de la chambre. Ben, le matin est de meilleurs conseils que le soir. Pas tant de sensiblerie. Mais en ce moment même, il entendit les coups redoublés que le veilleur frappait à tour de bras sur la plaque de fonte. Une voix prolongée cria « Veillez !»« Veillez !» répondit une autre voix lamentable. « Au diable !» se dit Nejdanov, « on se croirait dans une forteresse. » Chapitre 8. Nejdanov s'éveilla de bonne heure. Sans attendre l'apparition d'un domestique, il s'habilla et descendit au jardin. C'était un grand et beau jardin, admirablement entretenu. Des travailleurs loués ratissaient les allées. À travers l'éclatante verdure des buissons, on voyait passer les mouchoirs rouges qui servaient de coiffure aux petites paysannes armées de râteaux. Nejdanov s'en alla jusqu'au bord de l'étang. Le brouillard du matin s'était déjà envolé, mais l'eau fumait encore çà et là dans les recoins ombragés du rivage. Le soleil, encore bas, lançait de grands effets roses sur ce large miroir de plomb à surface lisse et comme satinée. Cinq charpentiers allaient et venaient près de la passerelle. Un canot tout neuf, fraîchement peint, roulait lentement d'un flanc à l'autre. Des rides légères couraient sur l'eau autour de lui. Des voix humaines, contenues et discrètes, retentissaient de temps en temps. Tout respirait le calme matinal. L'assiduité consciencieuse du premier travail, l'ordre et la régularité d'une vie tranquille et bien établie. Et voilà qu'au détour d'une allée, Nejdanov vit apparaître la personnification même de l'ordre et de la régularité, Sipiagin lui-même. Il portait une longue redingote couleur pois, une sorte de robe de chambre, et une casquette bariolée. Il marchait en s'appuyant sur une canne de bambou d'origine anglaise. Son visage, rasé de frais, exprimait la satisfaction. Il était sorti pour visiter son domaine. Sipiagin demanda à Nejdanov, d'un air affable, des nouvelles de sa santé. « Ah ah !» lui dit-il, « je vois, vous êtes jeune, mais matinal. » Il prenait le mot « matinal » au sens propre, au lieu du sens figuré qu'a ce mot dans le proverbe russe « jeune, mais matinal », c'est-à-dire « sage de bonheur ». Son intention était sans doute de féliciter Nejdanov, qui, comme lui, Sipiagin, n'avait pas abusé du lit. « Nous prenons le thé en commun à 8 heures dans la salle à manger, et nous déjeunons à midi. À 10 heures, Kolia prendra avec vous sa première leçon de russe, et à 2 heures, sa leçon d'histoire. Demain, 9 mai, jour de sa fête, il n'y aura pas de leçon, mais commencez aujourd'hui, je vous prie. » Nejdanov fit un signe de tête. Sipiagin prit congé de lui à la française en agitant rapidement et plusieurs fois de suite sa main devant son nez et continua son chemin en balançant sa canne et en sifflotant, non comme un haut dignitaire, mais comme un bon country gentleman russe. Nejdanov resta au jardin jusqu'à 8 heures, écoutant le chant des oiseaux, aspirant la fraîcheur de l'air, se délectant à l'ombre des vieux arbres. L'appel du gong le ramena vers la maison. Il trouva toute la société dans la salle à manger. Madame Sipiagin lui fit l'accueil le plus gracieux. Dans son costume du matin, elle lui fit l'effet d'une beauté accomplie. Marianne avait sur son visage l'expression concentrée et presque rude qui lui était habituelle. À 10 heures précises, la première leçon commença en présence de Madame Sipiagin. Elle s'informa préalablement auprès de Nejdanov pour savoir si elle ne gênerait pas. Et son maintien pendant tout le temps de la leçon fut aussi modeste que possible. Kolia se montra intelligent. Après les premières hésitations et les maladresses inévitables, la leçon marcha à souhait. Valentine semblait tout à fait contente du professeur. Elle lui adressa plusieurs fois la parole d'un air fort avenant. Il se tint sur la réserve, mais pas trop. Madame Sipiagine assista aussi à la seconde leçon, celle d'histoire russe. Sur ce sujet, disait-elle en souriant, elle avait besoin d'un professeur au moins autant que Kolia. Elle eut d'ailleurs une tenue aussi discrète que pendant la leçon du matin. De 3 à 5 heures, Nejdanov resta dans sa chambre pour écrire à Pétersbourg. Il se sentait assez à l'aise. Il n'éprouvait plus d'ennui, plus d'angoisse. Ses nerfs trop tendus étaient revenus peu à peu à leur état normal. Ils se tendirent de nouveau pendant le dîner, bien que Kalomeitsev n'y assista pas et que la dame du logis continuât à avoir pour lui une aimable prévenance. Mais c'était justement cette prévenance qui le gênait. De plus, sa voisine, la vieille fille Anne Zakharovna, lui était évidemment hostile et boudait. Marianne persévérait dans son attitude sérieuse. Kolia, enfin, avec un sans-gêne un peu excessif, lui donnait des coups de pied dans les jambes. Sipiagine lui-même avait un air de mauvaise humeur. Il était fort mécontent d'un Allemand qu'il avait fait venir à grands frais pour diriger sa fabrique de papier. Sipiagine se mit à déblatérer contre tous les Allemands en général, et à ce sujet déclara qu'il était slavophile, jusqu'à un certain point, quoiqu'il ne fût pas fanatique. Il parla d'un jeune russe nommé Solomine, qui, disait-on, avait mis sur un excellent pied la fabrique d'un marchand voisin. Il désirait beaucoup faire la connaissance de ce Solomine. Vers le soir arriva Kalomeitsev, dont la propriété n'était qu'à 10 verstes d'Arjanoye. C'est ainsi qu'on nommait le bien de Sipiagine. L'arbitre de paix vint aussi, puis un propriétaire de ce que Lermontov a si nettement caractérisé par ses 2 vers célèbres, enseveli dans sa cravate, son habit descendant jusqu'au talon, moustachu, avec une voix de fausset et le regard trouble. Un autre voisin vint encore. Celui-là avait un visage affreusement triste et édenté, mais il était très proprement vêtu. Le docteur du canton vint aussi. C'était un pauvre médecin qui aimait les termes scientifiques. Il assurait par exemple qu'il professait une bien plus grande estime pour Koukolnik que pour Pouchkine, parce que celui-là renfermait beaucoup de protoplasme. On se mit aux cartes. Nejdanov s'éloigna et rentra chez lui, où il se mit à écrire jusqu'après minuit. Le lendemain 9 mai était la fête patronymique de Kolia. Les maîtres en troupe, remplissant 3 calèches découvertes avec des laquais derrière, se rendirent à l'église, bien qu'elle ne fût pas à 300 mètres de la maison. Tout se passa d'une façon très correcte et très cossue. Sipiagine avait arboré son grand ruban rouge. Madame Sipiagine avait mis une superbe robe de Paris lilas clair, et pendant l'office elle lut les prières dans un tout petit livre relié en velours cramoisi. Ce livre intrigua quelques vieux paysans, et même l'un d'eux, ne pouvant y tenir, demanda à son voisin « Dieu me pardonne, est-ce qu'elle ne se dit pas la bonne aventure ?» Le parfum des fleurs dont l'église était pleine se mêlait aux émanations énergiques des sarraux récemment passés au soufre, des bottes goudronnées et des chaussures de paysannes, et par-dessus tout montait l'odeur de l'encens, agréable, mais un peu étouffante. Les sous-diacres et les sacristains chantaient en chœur avec de louables efforts, grâce à l'aide des ouvriers de la fabrique qu'on leur avait adjoint. Ils essayèrent même un concert. Il y eut un moment où tous les assistants éprouvèrent une impression tant soit peu pénible. Une voix de ténor, elle appartenait à l'ouvrier Klim, homme rachitique et souffreteux, se lança toute seule, sans être soutenue le moins du monde, dans des gammes chromatiques et mineures. Ces gammes furent terribles, mais si elles s'étaient arrêtées, tout le concert se serait effondré. Enfin, la chose passa sans trop d'accidents. Le père Cyprien, prêtre de l'extérieur le plus digne, revêtu de l'épigonate et de la mitre d'honneur, prêcha un sermon extrêmement instructif, qu'il lut sur un petit cahier. Par malheur, le trop consciencieux père jugea indispensable de citer les noms de certains rois d'Assyrie qui le gênèrent beaucoup pour la prononciation, et s'il fit preuve d'érudition, en revanche, il se mit horriblement en nage. Nejdanov, qui depuis longtemps n'avait mis le pied dans une église, s'était réfugié dans un coin parmi les paysannes. Elles ne le regardaient guère. Occupées qu'elles étaient à faire de grands signes de croix, des inclinations jusqu'à mi-corps, et à moucher soigneusement l'aîné de leurs enfants. Mais les petites paysannes, vêtues de sarraux neufs, avec leurs pendants de verroterie sur le front, et les petits garçons en chemise retenus à la ceinture, avec les épaulettes brodées et des carreaux rouges sous les aisselles, regardaient bouche béante ce nouveau fidèle, la face tournée de son côté. Nejdanov aussi les regardait, et pensait à bien des choses. Après la messe, qui avait duré fort longtemps, car on sait que la prière à Nicolas Thaumaturge est à peu près la plus longue de toutes celles du rite orthodoxe, tous les officiants, invités par Sipiagin, se dirigèrent vers la maison seigneuriale. Ils y accomplirent encore quelques cérémonies appropriées à la circonstance, aspergèrent d'eau bénite toutes les chambres, et furent enfin gratifiés d'un copieux déjeuner, pendant lequel la conversation roula sur les sujets ordinaires, fort édifiants certes, mais un peu lourds. Les maîtres de la maison eux-mêmes, quoique cette heure-là ne fût pas celle de leur déjeuner, prirent part néanmoins du bout des lèvres à la collation. Ils firent semblant de boire et de manger. Sipiagin daigna même raconter une anecdote fort décente, mais légèrement comique, qui, venant de la part d'un haut dignitaire orné d'un ruban rouge, produisit une impression, on peut le dire, délicieuse. Quant au père Cyprien, cette anecdote éveilla dans son cœur un sentiment d'admiration et de gratitude. Par réciprocité, et aussi pour montrer qu'il était capable, à l'occasion, de raconter quelque chose d'instructif, le père Cyprien fit part de la conversation qu'il avait eue avec l'archevêque lorsque celui-ci, parcourant son diocèse, avait fait venir chez lui, dans le monastère de la ville, tous les prêtres du district. « C'est un homme sévère, très sévère, » assurait le père Cyprien. « Il nous interrogea d'abord sur notre paroisse, sur nos revenus, puis il nous fit subir un examen. « Quelle est la fête patronale de ton église ?» me demanda-t-il à moi. « La transfiguration. » « Et notre père de ce jour-là, le connais-tu ? » ?»« Comment donc ? » ?»« Chante-le. » Je me mis tout de suite à chanter. « Le Christ, notre Seigneur, se transfigura sur la montagne. »« Assez, qu'est-ce que la transfiguration et comment faut-il l'interpréter ?» Je répondis, « Le Christ voulait montrer toute sa gloire à ses disciples. »« Très bien, me dit-il. Tiens, voici une petite image que je te donne comme souvenir. » Je me prosternai devant lui. « Merci, mon Seigneur. » de sorte que je ne me séparais pas de lui le ventre vide. « J'ai l'honneur de connaître personnellement son éminence, » dit Sipiagin avec gravité. « C'est un pasteur du plus grand mérite. »« Du plus grand mérite, » appuya le père Cyprien. « Il a seulement un peu trop de confiance dans les doyens. » Madame Sipiagin parla de l'école du village, dont Mademoiselle Marianne serait l'institutrice. Le diacre, inspecteur de l'école, homme d'une carrure athlétique, dont la longue chevelure ondulée rappelait confusément la queue bien peignée d'un trotteur des haras Orlov, voulut exprimer son approbation. Mais faute d'avoir mesuré la force de son larynx, il poussa un son tellement puissant qu'il effraya tout le monde et en resta lui-même tout penaud. Après quoi le clergé se retira. Kolia, dans sa belle petite veste à boutons d'or, fut le héros de la journée. On le combla de félicitations et de cadeaux. Sur l'escalier d'honneur et sur l'escalier de service, les ouvriers de fabrique, les dvoroviers, les vieilles femmes, les petites filles, vinrent lui baiser la main. Les paysans, suivant la vieille coutume du temps du servage, bourdonnaient confusément devant la maison, autour des tables couvertes de gâteaux et de bouteilles d'eau-de-vie. Kolia, tout à la fois honteux et enchanté, fier et timide, tantôt allait embrasser ses parents, tantôt courait dehors. À la fin du dîner, Sipiagin fit apporter du champagne, et avant de porter la santé de son fils, prononça un speech. Il dit d'abord ce qu'on doit attendre par remplir son devoir ici-bas. Et quel chemin il désirait voir prendre à son Nicolas, c'est ainsi qu'il l'appela à cette occasion. Et ce qu'avait le droit d'attendre de lui, premièrement sa famille, secondement la société, troisièmement le peuple. Oui, messieurs, le peuple. Quatrièmement, le gouvernement. S'élevant peu à peu, il finit par atteindre la véritable éloquence, en même temps qu'il insinuait, à l'instar de Robert Peel, sa main dans le revers de son habit. Il prononça le mot « science » avec attendrissement, et termina son speech par l'exclamation « Laboremus », qu'il traduisit immédiatement en langue russe. Kolia, son verre à la main, fit le tour de la table pour remercier son père et embrasser tous les assistants. Nejdanov échangea de nouveau un regard avec Marianne. Ils éprouvaient probablement tous deux la même impression, mais ils n'échangèrent pas une parole. Ce spectacle, d'ailleurs, paraissait à Nejdanov amusant et même intéressant, plutôt que répugnant ou désagréable. Et l'aimable hôtesse, Madame Sipiagin, lui faisait l'effet d'une femme intelligente qui sait qu'elle joue un rôle et qui en même temps est secrètement heureuse d'être comprise par quelqu'un d'intelligent aussi et de perspicace. Nejdanov, sans doute, ne soupçonnait pas lui-même jusqu'à quel point il était flatté dans son amour-propre par la manière d'être de Madame Sipiagin envers lui. Le lendemain, les leçons recommencèrent et la vie reprit son cours habituel. Une semaine s'écoula sans qu'on s'en aperçût. Quant aux impressions et aux pensées de Nejdanov pendant ce temps, le meilleur moyen d'en donner une idée, c'est de citer un fragment de la lettre qu'il écrivit à un certain Siline, son ancien camarade de collège et son meilleur ami. Ce Siline vivait, non à Pétersbourg, mais dans un chef-lieu de gouvernement éloigné, chez un parent riche dont il dépendait entièrement. Sa situation était si irrévocablement fixée que l'idée même de se tirer jamais de là ne pouvait lui venir à l'esprit. C'était un garçon maladif, timide et peu actif d'esprit, mais une âme exceptionnellement candide. Il négligeait la politique, lisait quelque peu, jouait de la flûte par désœuvrement et évitait les demoiselles. Il avait pour Nejdanov la plus vive amitié. Son cœur était du reste très susceptible d'attachement. Nejdanov ne se livrait jamais plus entièrement qu'avec Vladimir Siline. Quand il lui écrivait, c'était comme s'il eût causé avec un être bien connu et sympathique, mais habitant un autre monde, ou avec sa propre conscience. Nejdanov ne se figurait même pas comment il pourrait vivre de nouveau avec Siline en camarade dans la même ville. Si cela était arrivé, il se serait probablement refroidi bien vite à son égard, car les points de contact de leurs deux natures étaient peu nombreux. Mais il lui écrivait volontiers, longuement et en toute franchise. Avec les autres, dans sa correspondance du moins, il était apprêté et posé quelque peu. Avec Siline, jamais. Siline, inhabile à manier la plume, répondait rarement en quelques phrases brèves et mal tournées. Mais Nejdanov n'éprouvait pas le besoin de recevoir de longues réponses. Il savait, et c'était assez, que son ami absorbait chacune de ses paroles comme la poussière des chemins absorbe les gouttes de pluie, qu'il gardait ses secrets comme des choses saintes, et que, perdu dans une solitude profonde et sans issue, il vivait uniquement de la vie de son ami. Nejdanov ne parlait à personne de cette correspondance avec Siline, qui lui était plus précieuse que tout au monde. « Allons, mon bon ami, honnête Vladimir !» Il l'appelait ainsi dans ses lettres, et non sans raison. « Félicite-moi. Je me suis mis au vert, et cela va me donner le temps de me remettre. Je suis placé chez un riche dignitaire, nommé Sipiagin. Je donne des leçons à son moutard. Je mange admirablement. Jamais de ma vie je n'ai mangé comme ça. Je dors comme un plomb. Je me promène à loisir dans un très beau pays. » Et surtout, j'échappe pour quelque temps à la tutelle de mes amis de Pétersbourg. Pendant les premiers jours, je me suis rudement ennuyé, mais à présent, ça va déjà mieux. Il me faudra bientôt reprendre le Havre-Sac, en d'autres termes, me laisser cueillir, puisque je me suis fait passer pour champignon, comme dit le proverbe. C'est précisément pour cela qu'ils m'ont laissé partir. Mais en attendant, je peux jouir de cette bonne vie animale. Je peux me faire du ventre, et même si la fantaisie m'en prend, d'écrire des vers. Quant aux observations locales, je renvoie cela à plus tard. Le domaine me paraît bien en ordre, sauf pourtant la fabrique qui branle dans le manche. Les paysans libérés par rachat sont à peu près inabordables. Quant aux gens de service loués, ils ont décidément une physionomie trop décente. Mais nous éclaircirons tout cela par la suite. Les maîtres de la maison sont si polis, si libéraux. Le barine ne fait tout le temps que condescendre, puis tout d'un coup, il s'élève et plane. C'est un homme très civilisé. Sa femme est une beauté et probablement une fine mouche. Elle a une manière de surveiller son monde. Et avec cela, quel moelleux! On dirait qu'elle n'a pas un seul os. Elle m'effraie positivement. Tu sais, du reste, quel galant cavalier je fais. Il y a des voisins insupportables et une vieille qui me persécute. Mais la personne qui m'intéresse le plus est une jeune fille, une parente ou une demoiselle de compagnie, je n'en sais rien du tout, avec qui je n'ai pas échangé deux mots, mais qui m'a l'air d'être tout à fait de mon acabit. Ici venait la description du physique de Marianne et de toute sa manière d'être. Puis il continuait, « Elle est malheureuse, fière, facile à blesser, renfermée en elle-même, malheureuse surtout. Cela ne fait pas pour moi l'objet d'un doute. Pourquoi elle est malheureuse, voilà ce que je ne sais pas encore jusqu'à présent. C'est une nature honnête, pour sûr. Est-elle bonne? C'est encore une question. Mais peut-il exister des femmes complètement bonnes si elles ne sont pas bêtes? Et est-il nécessaire qu'il y en ait? Du reste, je ne connais guère les femmes. La maîtresse de la maison ne l'aime pas, et elle est payée de retour. Mais laquelle des deux a raison, je n'en sais rien. Je suis plus porté à croire que c'est la dame qui a tort, car elle est extraordinairement polie avec la demoiselle. Tandis que celle-ci, rien qu'à parler avec sa patronne, a des frémissements nerveux dans ses sourcils. Oui, c'est une créature très nerveuse. En cela, nous nous ressemblons. Elle est démise comme moi, quoique d'une autre manière, probablement. Quand tout cela sera un peu débrouillé, je t'écrirai. Je t'ai déjà dit qu'elle ne cause presque jamais avec moi. Mais dans le peu de paroles qu'elle m'a adressées, toujours brusquement et d'une manière inattendue, on sent une sorte de franchise de camarade. Cela m'est agréable. À propos, est-ce que ton parent te tiendra encore longtemps au régime du pain sec? Quand fera-t-il son paquet? As-tu lu dans le Messager d'Europe un article sur les derniers faux prétendants du gouvernement d'Orenbourg? Cela se passait en 1834, mon cher. Je n'aime pas cette revue, et l'auteur de l'article est un conservateur, mais le fait est fort intéressant et suggère bien des réflexions.